Bon, aujourd'hui, on va parler d'une figure qui est plutôt méconnue, mais qui est pourtant très intéressante.
Oui, on va vous parler d'espionnage, de KGB, de CIA, de collaboration. Bref, il y a plein de choses à dire.
Mais avant de commencer, si on vous dit Charles Hernu, vous pensez à quoi ?
Évidemment, à Charpennes, Charles Hernu. Cette petite place bucolique, idéalement située entre Lyon et Villeurbanne, si bien desservie avec son bus, ses tramways, son métro B qui va jusqu'à Saint-Genis-de-Laval, entièrement climatisé, automatisé. Charpennes, Charles Hernu, c'est aussi son consulat suisse, idéalement situé au-dessus du McDonald's, le McDonald's.
Non, on me dit c'est très bien, mais on parle pas du McDo là, ok, McDo très cool tout ça, mais là on parle de Charles Hernu. Et si la place s'appelle comme ça, c'est notamment parce que Charles Hernu a été maire de Villeurbanne.
Attends, tu veux dire que les places apportent le nom de vrais gens ?
Mais il t'arrive quoi ? C'est moi qui fais les blagues d'habitude.
Ton règne de terreur est terminé. Le Charles Hernu dont on va surtout vous parler aujourd'hui, ce n'est pas le maire de Villeurbanne ni le député de la 4ème République, mais c'est plutôt le ministre de la Défense de Mitterrand.
Ouais, en plus, il a été ministre de la Défense pendant un long moment, hein, entre 1981 et 1985. Il faut dire que c'était un fidèle de François Mitterrand.
Charles Hernu, on le connaît assez peu. Il faut dire que les ministres de la Défense, en général, sont plutôt discrets.
C'est marrant parce que t'as dit « en général » pour un ministre de la Défense.
T'es sûr que c'est pas mieux quand c'est moi qui fais les vannes ? Alors, Charles Hernu, au départ, il faisait bien des trucs classiques de ministre de la Défense, comme une intervention aux côtés de l'armée tchadienne contre la Libye de Kadhafi, ou encore conclure des contrats de vente d'avions avec l'émirat d'Abu Dhabi.
Ah, mais c'est pour ça qu'il a l'air nu, Charles. C'est parce qu'il est à Abu Dhabi.
Ça recommence. Mais ce qui va faire entrer le nom de Charles Hernu dans l'histoire politique française, c'est l'affaire du Rainbow Warrior. Alors, l'affaire du Rainbow Warrior, c'est quoi ? On est dans les années 80, et à l'époque, la France fait des essais nucléaires en Polynésie française.
Et l'association Greenpeace n'était pas trop d'accord avec ça, et donc ils essayaient de gêner l'armée française, notamment en naviguant dans les zones d'essais nucléaires avec un bateau qui s'appelait le Rainbow Warrior. Et là, boum.
And that's when the second bomb went off. And it went off right under our feet. And I thought, okay, time to go. So I walked back aft, calling out abandoned ship, trying to look into cabins as I passed them. Went outside on the casting deck, crawled up onto the dock. Stood there looking at the boat with all these bubbles coming up out of it.
Le 10 juillet 1985, deux bombes explosent à bord du navire qui était amarré au port d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Un photographe néerlandais, Fernando Pereira, meurt piégé dans le bateau. Très vite, tous les regards se tournent vers les services spéciaux français, accusés d'avoir mené cette opération bancale. En tout cas, du côté des services de renseignement, on a très vite identifié le coupable dès la première dépêche.
J'ai vu cette dépêche et je me suis dit, ok, ça c'est la maison.
Quand on a vu ce message et qu'on l'a lu ensemble, on a dit ça, c'est la DGSE. Hein. Voilà, c'était, comment dire, en langage policier, c'était gros comme une maison. Hein.
On vous l'a fait courte, l'enquête de la police néo-zélandaise va très vite démontrer qu'en effet, les services spéciaux français étaient à l'origine de l'opération.
Dans un premier temps, le gouvernement va nier avoir fait exploser le bateau. Mais acculés par des enquêtes de journalistes, ils vont finir par admettre leurs responsabilités. Et ça va mener à une crise diplomatique.
Une énorme crise diplomatique qui aura plusieurs conséquences. Déjà, la France a dû payer plusieurs millions de dollars de dommages et intérêts. Et puis, parmi les conséquences plus inattendues, il y a eu l'interdiction faite par l'ONU à la France de s'opposer à un accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et l'UE. Cet accord a permis à Wellington d'importer sans taxe de la viande de mouton et de chèvre à bas coût, une concurrence qui touche encore aujourd'hui les éleveurs français.
Tout ça pour vous dire que l'affaire du Rainbow Warrior a laissé des traces durables.
Et si vous voulez en savoir plus, on vous conseille la vidéo que Brut a faite avec Edoui Plenel, qui a enquêté sur l'affaire du Rainbow Warrior quand il était journaliste au Monde.
C'est là que je vais me retrouver, revenant de vacances, à devoir enquêter sur cette mystérieuse affaire.
Et pour enquêter sur cette mystérieuse affaire, il a fallu se poser une question. Qui a donné l'ordre de poser une bombe sur le bateau d'une ONG ?
Qui a pu accepter d'utiliser de si gros moyens contre des écologistes ? Charles Hernu, le ministre de la Défense qui contrôle la DGSE ? Laurent Fabius, le Premier ministre qui accorde les fonds spéciaux ? Ou le président François Mitterrand, chef des armées ?
Il n'y a pas de réponse certaine à cette question. L'hypothèse que fait le documentaire « Les services secrets en France » dont on vient de vous montrer des extraits, c'est que Mitterrand était au courant de l'opération, mais pas des détails.
Dans le documentaire Brut, on voit le directeur de la DGSE de l'époque qui affirme qu'il avait mis Mitterrand au courant.
J'ai tenu personnellement à vérifier auprès de lui que ce n'était pas seulement une initiative de son ministre de la Défense et que Charles Hernu lui en avait bien parlé et il m'a confirmé qu'il était bien au courant.
Donc on ne sait pas trop de quoi Mitterrand était informé à part d'une opération contre Greenpeace. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Charles Hernu qui va sauter suite à cette affaire.
Alors il n'a pas démissionné tout de suite. Au départ, il a totalement nié en disant qu'il ne savait pas ce qui se passait.
Dans la soirée, Charles Hernu affirme qu'aucun service dépendant de son ministère n'a reçu l'ordre de commettre un attentat contre le Rainbow Warrior. Au Conseil des ministres, François Mitterrand courroucé indique à Charles Hernu qu'il veut savoir.
Hernu, il est même allé jusqu'à accuser les Anglais d'être à l'origine de l'opération.
Dans le doute, il faut toujours accuser les Anglais.
J'ai eu vraiment la scène la plus pénible de ma vie quand j'ai vu Charles Hernu dire que c'était probablement, on avait l'assurance que c'était un coup des Anglais monté contre nous et qui suait à grosses gouttes dans le bureau du président de la République. Transpiré.
En fait, le gars, il a continué à mentir à la presse et aux autres politiques. Donc évidemment, tout ça, ça va pas tenir et il va finir par démissionner.
François Mitterrand adresse une lettre à Laurent Fabius. Cette situation, écrit-il, ne peut plus durer. Le président de la République exige des têtes. Ce matin, Laurent Fabius propose à François Mitterrand de mettre fin aux fonctions de l'amiral Lacoste, le patron de la DGSE, et d'accepter la démission de Charles Hernu.
Cette démission aurait dû en réalité arriver beaucoup plus tôt, parce que Charles Hernu était responsable en grande partie de ce qui s'est passé, ou plutôt irresponsable dans ce cas précis.
En effet, selon son biographe Jean Guinel, Charles Hernu est à cette période de sa vie plutôt instable.
Le ministre de la Défense, Charles Hernu, traverse à ce moment-là de graves problèmes, mêlant alcoolisme et sentiment d'invulnérabilité. C'est lui qui donne le feu vert à cette opération aberrante, envoyée par le fond un vieux chalutier qui voulait gêner des essais nucléaires.
Et puis c'est aussi à cette époque qu'il se sépare de sa femme, Dominique.
Et oui, parce que Charles Hernu, il fait pas seulement dans le mensonge d'État, il fait aussi dans l'adultère, cet énorme baiseur.
Alors non, Blast se transforme pas en magazine People, si on vous parle de ça, c'est que ça a eu un impact fort dans sa vie politique. Tenez, au début des années 1980, au moment de l'affaire Farewell, pendant laquelle la France avait mis la main sur des documents envoyés par un transfuge de l'Union soviétique, Hernu n'avait pas été mis au courant. La raison, c'est Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui l'a donné. Il ne faut pas en parler à Hernu. Il raconte tout à sa femme.
Et vous allez voir que ses relations avec les femmes vont avoir un impact au moment où va être prise la décision de couler le Rainbow Warrior. En 1985, il se sépare donc de Dominique pour aller avec Martine. Sauf que Dominique Tétrault, c'est non seulement sa femme depuis près d'une décennie, mais c'est surtout sa plus proche conseillère, et ce, de manière officielle. Elle est intégrée aux équipes qui entourent le ministre de la Défense.
On travaille beaucoup, oui, et 100 à l'heure, je dirais même 150 souvent. Hein.
Et on tient le rythme ?
On s'adapte.
On s'adapte ?
Oui. Quelquefois, on va aussi vite que lui, quelquefois, je roule sur une autre route.
Préparer un petit peu son travail, pas son travail exactement, mais enfin, je veux dire, est-ce que vous l'entourez de quelle façon ?
J'essaye.
Là, elle minimise. Mais c'est pas une employée fictive comme la femme de Fillon. Hein.
Et non, elle est véritablement appréciée pour ses compétences professionnelles. Le choix de Charles Hernu de la faire disparaître de son entourage ne va pas plaire à ses collaborateurs qui vont alors se mettre à le lâcher.
Dès le début de 1985, Charles Hernu est donc seul. Son univers se résume à sa nouvelle compagne. C'est un vieil adolescent qui redécouvre l'amour, remet son destin entre ses mains, s'inonde plus que jamais d'eau de toilette, rentre tôt dans ses appartements, n'écoute plus aucun avis. Ça tombe bien, plus personne ne lui en donne.
Donc là, on a un ministre de la Défense qui picole, qui n'écoute plus personne, qui vient de se séparer de sa femme qui était l'une de ses meilleures collaboratrices. C'est pas un poste important, ministre de la Défense, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?
En plus, c'est pas la première fois qu'il s'appuyait sur une de ses compagnes pendant sa carrière politique.
Oui, sa première femme était militante à la Jeunesse ouvrière chrétienne, pendant que lui préférait draguer dans des soirées étudiantes.
Il va vite l'abandonner avec un enfant pour faire carrière. Bref, il était pas trop famille, d'ailleurs un de ses fils le dit. Disons-le tout de suite, comme mes autres frères, je ne l'ai fréquenté que par épisode du fait de ses divers mariages, et je ne peux dire qu'il m'est élevé.
Au moment de lancer sa carrière en politique, il va rencontrer une femme de milieu beaucoup plus aisé que lui. Elle va lui permettre de rentrer dans des cercles parisiens très fermés qui lui étaient complètement inaccessibles.
Ouais, parce que Charles Hernu, il vient d'un milieu plutôt modeste à la base, même si sa famille a pu connaître une petite ascension sociale grâce à la gendarmerie.
Il est né à Quimper en 1923, on a quelques éléments sur sa jeunesse, mais c'est un peu compliqué de savoir ce qu'il a fait pendant la guerre.
En tout cas, ce que semblent indiquer plusieurs documents de l'époque, c'est qu'il a collaboré.
Jusqu'en 1944, Charles Hernu était mineur, et donc on n'a pas trop d'informations sur cette période. On sait qu'en 1943, il a été incorporé au chantier de jeunesse du régime de Vichy. Là, on n'est pas encore dans la collaboration. C'était obligatoire pour les jeunes de son âge à l'époque.
Mais c'est après, en 1944, que les choses prennent une autre tournure, et ça c'est ce que raconte Jean Guinel dans sa toujours excellente biographie de Charles Hernu.
Après avoir quitté les chantiers de jeunesse, Charles Hernu serait entré dans une petite officine vichysoise, la propagande ouvrière, dépendant du ministère de l'Information du Maréchal. Puis il aurait été nommé délégué pour l'information dans le département de l'Isère.
Pour ses activités, Charles Hernu sera emprisonné à Grenoble à la Libération et son passé ressurgira régulièrement pendant toute sa carrière politique.
Il sera même accusé d'avoir dénoncé un commerçant juif de l'Isère.
Hernu s'est expliqué sur cette affaire. Selon lui, il aurait simplement cherché à occuper le local du magasin de fourrure du commerçant juif avant de renoncer, car les clés du magasin se trouvaient à la Gestapo. Mais est-ce pour autant une affaire sans gravité? Comme l'écrit le journaliste Jean-Moïse Breitberg dans Franc-Maçonnerie Magazine, qu'il ait ou non dévalisé ce magasin ou qu'il ait occupé les lieux importe peu. Il en avait bel et bien demandé la réquisition, ce qui était un acte lourd de sens.
Oui, il a collaboré. En 1957, au début de sa carrière politique, il a même été giflé par un ancien résistant alors qu'il assistait à la commémoration de l'appel du général de Gaulle au Mont Valérien. Tout cela est vrai. Mais il ne faut pas ignorer non plus que le passé de Hernu a été utilisé contre lui par ses adversaires politiques, avec parfois des exagérations et des mensonges. Hernu, il était proche de Mendès France après la guerre, et l'entourage du socialiste a été la cible de nombreuses fausses accusations.
Des accusations notamment colportées par la fameuse centrale Albertini, une centrale dont on vous a parlé pendant l'épisode sur Madeleine.
Mais en tout cas, pour trier le vrai du faux, on vous recommande le travail de Jean Guinel, qui a quand même cherché plein d'archives et interrogé plus de 200 personnes. Et ce qui est sûr, c'est que Hernu a travaillé pour Vichy jusqu'à très tard pendant la guerre.
Mais ça ne l'a pas empêché de s'engager à gauche en politique après la libération.
Charles Hernu cumule dans les années d'après-guerre sa carrière au Centre national du commerce extérieur et son activité de journaliste aux Patriotes et aux Démocrates de Lyon. Il fonde en 1951 le Club des Jacobins. En 1956, il se présente aux élections législatives et devient ainsi le plus jeune député de France. Il rallie ensuite le PSU, mais en 1965, François Mitterrand l'appelle à ses côtés pour sa campagne présidentielle.
Et pourtant, François Mitterrand, il était informé de son passé.
Il en est allé de même au Parti Socialiste, où François Mitterrand, aussi bien que Jean-Jacques Kerran, l'actuel président du Conseil Régional Rhône-Alpes, et Francisque Collomb, le maire de Lyon, étaient parfaitement au courant. Bon, ça c'est pas étonnant si vous connaissez l'histoire personnelle de François Mitterrand, mais aussi la tendance qu'il avait à s'entourer d'anciens collabos. D'ailleurs, il s'est entouré de collabos de bien plus grande envergure que Charles Hernu, hein. Le plus connu, c'est René Bousquet.
Déjà, pour quelqu'un d'aussi jeune que Charles Hernu, le choix de la collaboration est peut-être plus un choix d'opportunité qu'un choix idéologique.
Il y a eu des résistants qui se sont ensuite engagés très à droite, comme Pasqua, et puis des collabos qui se sont ensuite engagés à gauche. Et même quand on regarde d'où venaient les collaborateurs avant la guerre, on trouve des gens qui venaient de tous les bords politiques. Et ça, on le voit dès le vote des pleins pouvoirs à Pétain.
Donc 570, oui, contre 80 non et une vingtaine d'abstentions. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, vous avez eu une majorité de oui dans tous les camps. Ça, c'est important à comprendre, y compris chez les communistes, puisque parmi les 14 communistes qui avaient continué à pouvoir siéger, vous en avez quelques-uns qui prennent pas part au vote, mais vous en avez 8 qui votent oui. Donc, malgré tout, quels que soient les camps, vous avez bien un vote oui qui est assez massif.
Bon, Hernu, le service où il a travaillé sous Vichy jusqu'en juillet 44, c'était quand même un service de propagande. Alors si son choix de départ n'était pas idéologique, ça l'est sûrement devenu après. Selon un article du Point sur le sujet, pour travailler à ce poste de délégué départemental à l'information sociale, il a dû signer une carte portant la mention « Je déclare n'être ni juif, ni franc-maçon, ni communiste, et m'engage à servir de toute ma ferveur l'œuvre du maréchal ». Donc bon, on peut pas non plus dire que c'est pas du tout idéologique. Mais en tout cas, il a changé d'avis après 1944.
Et il a changé d'avis plutôt radicalement. L'engagement politique d'après-guerre de Charles Hernu a donc débuté aux côtés de Pierre Mendès France. À l'époque, il se présentait comme un militant contre la colonisation. Au PS, dans les années 80, il va rechanger d'avis et tenir une ligne beaucoup plus droitière et militariste.
Il est pour une république autoritaire et rigoureuse. Passionné par l'armée, il arrive à convaincre François Mitterrand de la nécessité de se doter d'une importante force de frappe nucléaire.
Moi aussi, je suis un pacifiste, et justement, je crois à la dissuasion nucléaire comme non-guerre. Le rôle difficile aujourd'hui de nos officiers, de nos sous-officiers, des soldats, c'est d'être toujours prêt à combattre pour savoir que cette préparation est au fond destinée à ne pas combattre.
Bon, l'arme nucléaire dans un contexte de guerre froide, même à gauche, ça peut s'entendre. Mais Hernu va beaucoup plus loin dans les idées de droite. Il proposera carrément de réintroduire la peine de mort en cas de guerre.
Mais vous inquiétez pas, ça va, c'est un pacifiste.
Bon, vous l'aurez compris, le ministre de la Défense, Charles Hernu, il incarne la ligne la plus dure du Parti Socialiste.
Pas étonnant alors qu'il soit perçu comme un ministre de la continuité, celui qui poursuit, tout en s'en accommodant très bien d'ailleurs, la politique de ses prédécesseurs. Dans l'armée, il a une bonne image. Jusqu'au bout, il a couvert des généraux français. Et il bénéficiait d'une certaine bienveillance de la part de l'opposition.
C'est un mec de gauche apprécié par la droite, mais qui ne sait pas que la droite ne votera jamais pour lui, un peu comme un certain secrétaire général du Parti communiste français.
Hernu, il tiendra même cette ligne dans sa ville. Il instaura à Villeurbanne un climat sécuritaire en demandant plus d'effectifs policiers pour lutter contre ceux qu'il appelle les voyous.
Il ira même jusqu'à faire appel à des milices privées pour réprimer les populations les plus pauvres, mais ça ne l'empêchera pas de rester très populaire chez les militaires et dans sa région.
Ses allers-retours en TGV pour Villeurbanne se traduisent par des salves d'applaudissements quand il traverse le train. Sur le quai de la gare de Lyon, les permissionnaires le saluent. Quand ce sont des légionnaires, ils lui font une aide d'honneur. Au restaurant, à Lyon, où il prend un repas lors du premier week-end suivant sa démission, les clients se lèvent et viennent lui faire compliment. De temps à autre, on le félicite ouvertement d'avoir fait couler le navire écologiste.
Ah bah ça, les écolos, ils nous emmerdent. Hein. Si Charles Hernu avait rien fait, je suis sûr qu'ils auraient mis des pistes cyclables pour bateaux partout dans Paris. Merci Charles Hernu.
D'ailleurs, il va comment, Charles Hernu?
Eh ben, il est mort, devant les caméras.
Le 17 janvier 90, Charles Hernu est foudroyé par une crise cardiaque en plein meeting arménien. Continuez sans moi seront ses derniers mots.
Eh ben, autant vous dire qu'ils vont continuer sans lui, parce qu'on va encore parler de Charles Hernu plusieurs années après sa mort.
Quand on sort cette une qui s'appelle « Charles Hernu était un agent de l'Est », qui était quand même déjà une forme assez violente de présentation, il faut comprendre un peu le contexte. C'est-à-dire qu'on est en 1996, Charles Hernu est mort depuis 6 ans, et Charles Hernu était une grande figure de la Mitterrandiste.
Et oui, c'est l'Express, et plus particulièrement deux journalistes, Jérôme Dupuis et Jean-Marie Ponto, qui vont sortir ce scoop. Ils accusent carrément Charles Hernu d'avoir travaillé pour la Russie, la Bulgarie et la Roumanie.
Alors, la collaboration, le Rainbow Warrior et maintenant l'espionnage pour le Bloc de l'Est.
Ça fait beaucoup là, non ?
Oui, ça fait beaucoup, d'autant plus que les journalistes de l'Express couvrent une période allant de 1953 à 1963, période durant laquelle Charles Hernu aurait été rémunéré pour ses informations.
Il y a l'ancien patron des services roumains, qui d'ailleurs avait travaillé en France, qui avait été expulsé de France, qui nous a apporté un dossier, une sorte de cadeau, de remerciement, de gage de confiance, dans lequel il racontait comment Hernu avait été un agent.
Ces agents de l'étranger auraient profité de sa situation personnelle difficile pour l'approcher. Il a aussi des difficultés à joindre les deux bouts, tant pour ses activités politiques que dans sa vie privée. Hernu est alors salarié du Centre National du Commerce Extérieur. Cette personnalité remuante, intelligente et prometteuse attire donc, en raison de ses faiblesses, l'attention des services de l'Est. Pendant la guerre froide, tout le monde espionnait tout le monde. Il y avait effectivement des agents américains et soviétiques un peu partout.
À la fin des années 90, on est encore peu de temps après la fin de la guerre froide, et les affaires d'espionnage commencent à remonter. En 1999, un universitaire britannique, Christophe Andrew, publie un livre, « Les archives Mitrokhin », du nom d'un archiviste du KGB qui a transmis des documents. Dans cet ouvrage, on apprend notamment que la France était le pays d'Europe de l'Ouest comptant le plus d'agents travaillant pour les services de l'Est.
En France, la cinquantaine d'agents mentionnés par Mitrokhin sont disséminés au sein des services secrets français, au ministère des Affaires étrangères, de la Défense et de la Marine, ainsi que dans la presse et dans l'industrie.
Donc les révélations de l'Express ne sont pas absurdes dans le contexte de l'époque.
Ok, elles sont pas absurdes, mais est-ce qu'elles sont crédibles? En tout cas, elles vont être remises en question dans ce bouquin « DST Police Secrète » de Roger Faligo et Pascal Krop.
La DST, c'est l'ancien nom du renseignement intérieur qui s'appelle aujourd'hui la DGSI.
Les deux auteurs donnent beaucoup d'éléments pour contredire la thèse des journalistes de l'Express. Ils s'étonnent par exemple que certains des documents révélés soient rédigés en roumain, alors que les espions de l'Est communiquaient en russe. Ils citent des agents de l'Est et de la DST qui expliquent n'avoir jamais entendu parler de Charles Hernu en ces termes, et ils évoquent la presse roumaine qui, elle, penche pour une opération d'enfumage visant à empêcher l'adhésion de la Roumanie à l'OTAN.
Oui, et les personnes interrogées dans le livre évoquent même l'hypothèse de faux documents produits par la DST ou l'extrême droite. En pleine affaire Hernu, un très curieux document intitulé « L'espionnage de l'Est et la gauche » émanant des milieux d'extrême droite circule dans toute la presse française. Ce mauvais tract, qui convaincra tout de même quelques journalistes, est une caricature.
Nous, on a essayé de creuser cette affaire, mais c'est pas très clair. En fait, il y a des complots de tous les côtés. Il y a un bouquin qui sortira un peu plus tard qui accusera Hernu d'être un agent de la CIA cette fois-ci.
Des accusations qui touchent même l'Express.
Notre magazine a été cité à plusieurs reprises dans des articles de la presse française consacrés aux archives Mitrokhin et publiés avant la mise en vente du livre, comme ayant été lui aussi infiltré, en compagnie du Monde et de l'AFP, par le KGB. Peut-être, après tout, l'avons-nous été.
Non mais si tout le monde est un espion, là, on va pas s'en sortir.
En tout cas, à l'époque de l'affaire Hernu, déjà, les médias doutaient qu'il soit effectivement un agent de l'Est.
Plus que celui d'un espion, ces nouveaux documents brossent le portrait d'un homme trop bavard, vantard, avide de reconnaissance, sorte de Tartarin de la guerre froide, dans l'ambiance délétère d'une 4ème République finissante.
Quoi qu'il en soit, cet épisode posthume dans la biographie de Charles Hernu est une nouvelle incursion dans le monde du renseignement après l'épisode du Rainbow Warrior.
Les politistes Olivier Chopin et Benjamin Houdet l'affirment. Les services de renseignement modernes s'appuient sur des siècles d'espionnage. Selon eux, l'espionnage fait partie inhérente de l'exercice du pouvoir, le tout en s'appuyant sur une carte joker, la raison d'État. Intouchable, la raison d'État permet au gouvernement de réaliser des actions illégales au nom de l'intérêt supérieur de la nation.
La raison d'État, de nos jours, désigne l'impératif au nom duquel le pouvoir s'autorise à transgresser le droit dans l'intérêt public. Trois conditions la déterminent. Le critère de la nécessité, la justification des moyens par une fin supérieure, l'exigence du secret. En gros, les secrets font partie du fonctionnement normal d'un État-nation. Ils assurent le maintien de sa souveraineté.
La raison d'État, c'est ce qui justifie l'épidémie d'espionnage en Europe de l'Ouest pendant la guerre froide et après.
Tous les moyens étaient bons pour obtenir un maximum de renseignements, parfois en ayant recours à des méthodes peu recommandables. Ce qui est recommandable, en revanche, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube de Blast et activer la cloche.
Dans l'hypothèse où Ernu aurait été effectivement un agent de l'Est, les services secrets roumains se seraient appuyés sur ses difficultés financières, ses problèmes d'alcool et son passé collaborationniste.
La raison d'État, c'est aussi ce qui a permis au pouvoir de justifier le désastre du Rainbow Warrior. À la fin, peu importe que Mitterrand ait été au courant des détails, l'opération a atteint son objectif, la poursuite des essais nucléaires français dans le Pacifique. Et tant pis si ça a été fait au mépris de la santé des populations polynésiennes, qui étaient d'ailleurs parfois évacuées par les navires de Greenpeace. Ernu, avant d'être victime de ses problèmes personnels, était d'abord un militariste qui estimait que l'État pouvait tout se permettre pour arriver à ses fins, en l'occurrence, arriver à se doter d'une puissante force de frappe nucléaire.
Et ce constat amène à une question. Est-ce qu'un État peut se passer de ce genre de pratiques ?
La question se pose d'autant plus dans les pays démocratiques, car ce sont des pratiques qui entrent en contradiction avec leurs principes. Mais on pourrait dire que la raison d'État est précisément ce qui permet de préserver ce système démocratique.
Mais ça, ce sont les principes. Mais derrière ces décisions, il y a des individus. Des individus qui font partie d'un système, qui sont contraints politiquement, médiatiquement, et aussi, on l'a vu avec Ernu, qui sont contraints par leur santé et leur vie privée. Le problème ici, plus que la question du secret et de la raison d'État, c'est l'absence de contrôle, l'absence de garde-fou, et la possibilité pour un homme seul et fragilisé de prendre ce type de décision. Ça, c'est le premier dysfonctionnement.
Le second dysfonctionnement dans l'affaire du Rainbow Warrior, c'est pas l'action illégale. Des actions comme ça, les services spéciaux en mènent tout le temps.
Le problème, c'est le comportement de Charles Ernu, qui a menti à ses supérieurs et qui n'a pas respecté le contrat tacite qui existe dans ce genre de cas. Même quand il y a un mort civil, on règle les choses à l'amiable.
Il y avait une solution, c'était la solution classique dans les rapports entre services secrets. On peut contacter le service secret adverse et on peut dire... On a un pépin, on a fait une connerie, combien, qu'est-ce qu'on fait ?
La biographie de Charles Ernu est un champ de bataille. Que ce soit sur la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, son rôle dans l'affaire du Rainbow Warrior ou sur ses accusations d'espionnage posthume, le parcours de vie de l'ancien ministre de la Défense illustre parfaitement les affrontements politiques de la seconde moitié du XXe siècle. Il est le symbole des luttes politiques autour de la place des anciens collabos, notamment dans l'entourage de Mitterrand. Il est le symbole des luttes politiques autour de la question de l'espionnage entre l'Est et l'Ouest après la guerre froide. Et il est enfin, avec l'affaire du Rainbow Warrior, le symbole de la raison d'État et des dérives que finissent forcément par entraîner une gestion solitaire et sans aucun contrôle démocratique de services spéciaux. Pourtant, qui dit contrôle démocratique ne veut pas forcément dire contrôle public ou fin du secret, mais simplement des moyens d'éviter qu'une seule personne puisse avoir le pouvoir en appuyant sur un bouton, doter la vie d'un homme.
Ernu, vu la façon dont sa carrière politique s'est terminée et vu ce qu'on vous a dit de lui, vous ne serez pas étonné de savoir qu'il n'a pas d'héritier politique. Par contre, son nom est toujours l'objet d'une bataille mémorielle. Encore en 2021, le site d'information de gauche lyonnais Rebellion demandait de débaptiser la place qui porte son nom.
Le site lui reproche bien sûr l'affaire du Rainbow Warrior et son passé collaborationniste, mais aussi son action militariste et autoritaire.
En même temps, il a fait péter un bateau, quoi. Merci d'avoir regardé cet épisode des Portraits, on espère que ça vous a plu et que cette figure un peu méconnue, et on se retrouve le mois prochain pour la suite.
Et en attendant, n'oubliez pas que Blast est en galère financièrement. Regardez, on tourne dans une cave, on n'a pas de nouveau décor, donc s'il vous plaît, donnez pour soutenir Blast, c'est important.